13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, au contact. Alors qu'Emmanuel Macron pilonne son programme et lui reproche de se planquer du peuple, Marine Le Pen, ce matin en Normandie, au milieu de la foule, à deux jours du débat.
J'espère que ce ne sera pas ce que j'entends depuis maintenant une semaine, c'est-à-dire une succession d'invectives, de fake news, d'outrances.
Après un début d'entre-deux-tours sans bain de foule, elle renoue donc depuis vendredi avec cet exercice. Emmanuel Macron, lui, rejette l'accusation d'un président pour l'élite et méprisant.
Moi, j'ai toujours été au contact. Le vrai mépris, c'est de se protéger du peuple, c'est de ne jamais y aller. Ce qui est l'inverse de ce que j'ai fait pendant 5 ans et de ce que je fais pendant cet entre-deux-tours.
Et face aux critiques, les candidats ajustent leurs promesses. La semaine dernière, Emmanuel Macron et les retraites. Et maintenant, Marine Le Pen, l'interdiction du voile dans l'espace public, objectif à terme, dit-on désormais au RN. Dans le feuilleton, la ville qui vote presque comme le reste de la France, Châteaudun. Et dans le vif de l'histoire, l'extrême droite progresse chez les catholiques pratiquants. Dans l'actualité encore, la maternité de Nevers, la seule de la Nièvre, fermée provisoirement. Les sages-femmes sont en arrêt maladie. Le manque de main-d'œuvre dans la restauration, 2 à 300 000 offres non pourvues, selon le principal syndicat. Le coût de la vie quotidienne, la facture de téléphone mobile augmente, elle aussi. L'Ukraine, on attend l'offensive à l'est. C'est à Lviv, à l'ouest, que l'on bombarde du côté russe. 7 morts selon les Ukrainiens. Bataille des images aussi, images de prisonniers, des combattants britanniques à la télé russe. Le proche de Poutine, Medvedchuk, côté ukrainien. Vos rendez-vous dans le 13-14. Un sujet finalement très politique à 6 jours du second tour. Comment le rapport à l'alimentation en France a changé? Nous recevrons à 13h30 le journaliste Jean-Louis André qui publie un livre passionnant à ce sujet. Alors souvenir des courses, des repas d'autrefois et aujourd'hui, quel changement? Appelez-nous 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. Et dans C'est une chanson, Florent Marchais choisit Stéphane Echer. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Les candidats essaient de convaincre les électeurs dans cette dernière semaine de campagne et les grands problèmes économiques et sociaux demeurent. Exemple, le manque de moyens à l'hôpital. Illustration à Nevers, en Bourgogne-Franche-Comté. La seule maternité de ce département de la Nièvre est provisoirement fermée. Toutes les sages-femmes sont en arrêt maladie. Elles étaient 26 il y a 2 ans. Elles ne sont plus que 14. Pas de suppression de poste, mais les collègues sont partis exercer le métier ailleurs, dans des conditions moins difficiles. Alors symboliquement, lundi dernier, celles qui restent se sont mises en arrêt maladie. Aurélie Perrier, syndicat CFDT et sage-femme dans cet hôpital de Nevers.
On travaillait auparavant à 5 sages-femmes la journée. À partir du mois de janvier, on nous a demandé de passer à 4 sages-femmes, puis à 3 début mars, et puis là, au mois d'avril. Donc là, ça a été vraiment intenable parce qu'on nous a demandé de travailler avec la même charge de travail à 2 sages-femmes par jour. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus prendre en charge les patientes sans risquer leur sécurité. C'était extrêmement difficile parce qu'on avait vraiment l'impression de faire un travail incomplet, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas accompagner les femmes comme on le souhaitait. Il arrivait parfois que on allait voir une patiente et puis on lui disait qu'on allait revenir 10 minutes après, puis finalement une heure et demie après, on pouvait seulement venir la revoir parce que on avait été sollicité de toutes parts par ailleurs. La réserve sanitaire a été activée, c'est-à-dire que on va avoir un renfort de 8 sages-femmes et de 5 infirmières diplômées, mais c'est quelque chose qui n'est pas pérenne puisque à partir du 20 mai, la réserve sanitaire va partir et avec la pénurie nationale, on va pas pouvoir continuer à travailler avec les mois d'été qui arrivent, les congés annuels. Ça va devenir difficile de pouvoir continuer à travailler ainsi.
Au propos recueilli par Sophie Bécherel et entre retour des titulaires et mobilisation de la réserve, la maternité rouvrira demain, mais vous l'avez entendu, inquiétude pour les vacances dans quelques semaines. Marine Le Pen sera-t-elle présidente de la République dimanche soir? C'est la question alors que s'ouvre la deuxième et dernière semaine de l'entre-deux-tours qui sera marquée par le débat mercredi. Pour l'instant, dans les intentions de vote, elle est derrière Emmanuel Macron qui est entre 53 et 55% dans la marge d'erreur, donc pour une partie des enquêtes. Et on l'a vu au premier tour, des mouvements de voix importants peuvent se produire les tout derniers jours. Quels sujets animeront le débat mercredi? Lise Roseveille, pour France Bleu Périgord, vous êtes allée dans une commune ouvrière de Dordogne, Montpont-Ménestrol, 5500 habitants, plusieurs usines. Ici, Marine Le Pen est arrivée en tête il y a 8 jours, 34% des suffrages exprimés. Et le projet d'Emmanuel Macron de reporter progressivement l'âge légal de départ à la retraite ne lui rapportera pas de voix.
Un petit groupe d'ouvriers mange devant l'usine, tous autour de la table avec leurs blouses de travail. Et quand on leur demande pour qui ils vont voter...
Macron.
Macron.
Non, je plaisante. Non, Le Pen.
Au bout de la table, Aziz, la cinquantaine, travaille sur la ligne d'assemblage. Pas question pour lui de trimer jusqu'à ses 64 ou 65 ans.
C'est hors de question. J'ai bossé, j'ai trimé toute ma vie. À la fin, j'ai envie d'avoir, d'être en bonne santé pour profiter du reste. Si à 65 ans, je dois être comme un légume et être à la retraite, c'est pas la peine.
Hélène et Angélique hochent la tête. Elles sont dans l'usine depuis plusieurs années.
C'est de la fatigue plutôt mentale que physique.
Les positions, ouais, toujours assis.
Non, moi je me vois pas travailler plus de 60, 62, c'est bien. Le problème, c'est que s'il nous repousse la retraite à 65 ans, il peut repousser après plus par la suite, quoi, donc non.
Damien est d'accord, il bosse depuis ses 15 ans, alors la proposition de Marine Le Pen lui plaît. Un départ dès 60 ans pour ceux qui ont commencé très jeunes.
Après, c'est pas pour autant qu'elle pourra la mettre en place, parce qu'elle risque, elle propose de récupérer l'argent à droite à gauche, bon... C'est peut-être simple à dire, à faire, ça va peut-être être différent. Quoi.
Ils l'assurent tous autour de la table. De toute façon, ils n'ont pas confiance dans les politiques.
Alors, rappelons que le projet d'Emmanuel Macron, c'est de reporter progressivement 4 mois par an l'âge légal jusqu'à au moins 64 ans en 2027. Pour les carrières longues, l'âge légal sera fixé avant 65 ans. Emmanuel Macron a multiplié les déplacements. La semaine dernière, il accuse Marine Le Pen de se planquer du peuple au lieu de le défendre. Est-ce que le reproche porte ? En tout cas, la candidate, après un début d'entre-deux tours fait de conférence de presse, va davantage au contact depuis la fin de la semaine dernière. Ce matin, le Calvados, un marché de Saint-Pierre-sur-Dive. Reportage France Inter, Élodie Forêt.
Une foule compacte s'agglutine autour de la candidate.
Je bon, c'est parce que c'est une maman, je pense.
Marine Le Pen sourit de ce surnom, satisfaite de s'offrir un bain de foule en terre conquise, 35% des voix au premier tour. Au balcon, quelques militants pro-Macron tentent bien de gâcher la fête, mais en contrebas, la réponse est sans appel. Et Marine Le Pen de balayer le reproche de son adversaire qui l'accuse de se planquer dans des communes qui lui sont favorables.
Je suis arrivée en tête dans 22 000 communes sur 34 000. Donc vous voyez, il est quand même assez naturel qu'on ne les laisse pas de côté, non ?
Marine Le Pen qui, avant de se mettre en retrait pour préparer le débat, tente aussi face à la presse de justifier son dernier changement de braquet sur le voile.
C'est parce que je ne suis pas insensible, moi, au discours de cette vieille dame qui me dit « Mais moi, je le porte parce que je suis une personne âgée et que ça n'a pas la même signification pour moi. » Que les jeunes femmes qui sont obligées de le mettre sous la pression sociale. Donc nous allons, encore une fois, réfléchir aux meilleurs moyens contraindre les islamistes à laisser les femmes en paix.
À deux jours du débat, jouer la carte du pragmatisme et s'offrir quelques belles images pour se donner du courage.
Et avant le débat, après ce déplacement en Normandie, agenda de la leader d'extrême droite allégé pour qu'elle prépare ce débat. Côté Macron, deux interventions médiatiques aujourd'hui. L'émission C'est à vous sur France 5 ce soir. Et ce matin, France Culture, au micro de Guillaume Herner, en guise de défense de son bilan, Emmanuel Macron revient sur les mois Covid dans le monde de la culture.
Je veux ici défendre ce que nous avons, ce que la nation a fait pendant cette crise, parce que nous avons fait ce qu'aucun autre pays au monde n'a fait. Nous avons un statut des intermittents qui est unique au monde, on n'a pas simplement préservé, on lui a donné des dérogations pour que tous et toutes puissent continuer à vivre, à être accompagnés pendant cette période de crise où ils ne pouvaient pas forcément travailler. Et on a ensuite accompagné les artistes durant cette période pour pouvoir justement avoir des revenus. Et moi j'en suis très fier et je pense que des artistes, aussi aux diffuseurs, à toutes celles et ceux qui sont dans le monde de la culture, je sais qu'il y a encore une fragilité et ça je veux m'y atteler. Donc moi je crois à cette politique, je pense que c'est une force de la France. Et donc on a beaucoup renforcé et soutenu de manière inédite pendant la crise Covid nos artistes.
Emmanuel Macron ce matin, l'interview est à réécouter en intégralité sur franceculture.fr. Son projet de réforme des retraites lui est reproché, on l'a entendu au début de ce journal. Du côté de Marine Le Pen, c'est l'interdiction générale du voile dans l'espace public qui suscite des reproches. Et bien sur ces deux sujets, conscients des critiques, les deux candidats se sont amendés. Bonjour Maxence Lambrec.
Bonjour Bruno.
D'ailleurs, on a rarement vu un entre-deux tours où les candidats modifient à ce point leur projet.
En effet, Jacques Chirac n'avait pas changé une ligne en 2002. Ségolène Royal avait tenté en vain une discussion avec François Bayrou dans l'entre-deux-tours de 2007. 5 ans plus tard, Nicolas Sarkozy a refusé de promettre un référendum sur l'immigration que lui proposait son équipe. Enfin, en 2017, Marine Le Pen a changé du tout au tout sur l'euro, proposant une double monnaie après son alliance avec Nicolas Dupont-Aignan. Formidable angle d'attaque du débat d'entre-deux-tours. Amender son projet, ce peut être aussi le fragiliser.
Alors pourquoi autant d'évolution cette fois-ci ?
Parce que que tous deux apparaissent beaucoup plus libres que leurs prédécesseurs. Emmanuel Macron et Marine Le Pen bougent sans réunir la moindre équipe. Ils n'ont pas un parti à emmener avec eux, des barons à convaincre, des courants à consulter comme Sarkozy ou Hollande. Ils n'ont de compte à rendre à personne. Emmanuel Macron n'a pas de directeur de campagne. Marine Le Pen en a un très opérationnel. Les lieutenants découvrent presque en direct ses amendements sur les plateaux et adaptent leur discours. Le président candidat reprend sur scène les slogans de Philippe Poutou, de Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen ne cesse de citer De Gaulle, ça ne choque plus grand monde. La marque d'une société liquide, dirait le philosophe Baumann. Le pragmatisme érigé en boussole, il s'agit aussi de répondre à la pression médiatique. Le moindre bain de foule diffusé en quasi-intégralité sur les chaînes d'infos en continu. Déluge d'émotions auxquelles il faut répondre dans la journée. Face vendredi à une personne handicapée qui souhaite se marier, Emmanuel Macron craque sur le plateau de France Info. Choisissez l'amour, il promet de bouger sur la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé alors que sa majorité l'a rejeté pendant 5 ans.
Et parmi les changements de pied légers mais réels au Rassemblement National, les éoliennes. Dans le programme sur le site de Marine Le Pen, il est écrit ceci, nous lancerons le démantèlement progressif des sites, donc tous les sites, en commençant par ceux qui arrivent en fin de vie. Ce matin sur France Inter, le vice-président du Rassemblement National, Louis Alliot, insistait sur le non-renouvellement des éoliennes. Ces projets, nous continuons de les examiner chaque jour sur France Inter, à la fois dans le journal de 8h et dans ce 13h. Bonjour Alexandra Akoun.
Bonjour.
Avec vous aujourd'hui, ce que prévoient les deux candidats pour les médias.
Et on commence avec Emmanuel Macron qui, dans son programme, défend la notion d'indépendance culturelle et informationnelle, une idée qui porte en elle la volonté de protéger l'information libre face aux ingérences, particulièrement sur le numérique. Emmanuel Macron propose donc des états généraux pour le droit à l'information. Il s'est également engagé sur la défense du droit d'auteur et du droit voisin au niveau européen. Concernant l'audiovisuel public, le président candidat veut supprimer la redevance qui de toute façon disparaîtra en 2023 avec la taxe d'habitation. Pour la remplacer par quoi? Avec quelle garantie d'indépendance? Il n'est pas entré dans le détail. Emmanuel Macron qui pourrait aussi relancer sa grande réforme de l'audiovisuel public enterrée par la crise du Covid. Marine Le Pen, elle, ne fait pas dans le détail concernant l'audiovisuel public. Elle veut tout privatiser. Radio France, France Télévisions, au nom du pouvoir d'achat et supprimer les 138 euros de redevance. Seul l'audiovisuel public d'outre-mer et France Média Monde, c'est-à-dire RFI et France 24, considérés comme la voix de la France à l'étranger, seraient préservés, ainsi que Arte et l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, qu'elle ferait transférer au ministère de la Culture pour intégrer les archives nationales. La candidate RN souhaite aussi revoir les relations entre journalistes et politiques, car selon elle, les responsables politiques sont en mesure d'avoir des exigences à l'égard des médias, comme la loyauté ou l'impartialité. Enfin, elle est favorable à de lourdes sanctions de la presse en cas de violation du secret de l'instruction.
La consultation auprès des électeurs de Jean-Luc Mélenchon nous conforte dans l'idée que Marine Le Pen va l'emporter dimanche prochain. C'est ce qu'affirme le porte-parole du RN, Philippe Ballard, lors de cette consultation de ceux qui avaient soutenu Jean-Luc Mélenchon sur Internet. Plus de 200 000 personnes ont répondu. Les deux tiers affirment qu'elles voteront nul, blanc ou s'abstiendront. Les autres affirment qu'elles voteront Macron. Le choix Le Pen n'était pas possible dans cette consultation. Pas une voix pour Marine Le Pen, avait répété Jean-Luc Mélenchon le soir du premier tour. Depuis le 10 avril, des tribunes de personnalités de la culture ou du sport appelant à voter Macron dimanche prochain ont été publiées, mais la mobilisation n'a rien à voir avec ce qu'elle était en 2002, quand Le Pen père avait accédé au second tour. Exemple, Alexis de Meyer, le monde du rap.
Dès son arrivée en France dans les années 80, le rap s'impose comme une musique contestataire. Alors quand Jean-Marie Le Pen se retrouve au second tour de la présidentielle, c'est l'explosion. Ministère amer se reforme pour l'occasion. Sachons dire non organise un freestyle de plus de 10 minutes au casting VIP. Et la rappeuse Princesse Agnès initie dans l'urgence le morceau collectif hip-hop citoyen.
C'est quoi l'extrême droite?
Tiens, écoute.
Aujourd'hui, la mode n'est plus du tout au bras d'honneur à l'extrême droite. La jeune garde du hip-hop est beaucoup moins politisée, comme nous le confirme le journaliste rap Raphaël Dacruz.
En 2002, dans l'inconscient collectif du rap, l'extrême droite, c'est l'ennemi principal, c'est certain. Depuis 20 ans, avec la banalisation des idées d'extrême droite, on est revenu déjà à quelque chose de beaucoup plus pragmatique sur la survie économique en temps de crise, finalement, via l'illégal ou ensuite grâce à l'argent qu'ils peuvent gagner dans le rap. On est sur des choses beaucoup plus matérielles. Et donc, il y a une forme de détachement, en fait, de l'idéal politique.
Bravo, monsieur Zemmour a même récemment osé sur Twitter la superstar Booba, partageant avec ses 5 millions d'abonnés une vidéo du leader de Reconquête. Deux décennies plus tôt, Diams, elle, écrivait une lettre à la future double finaliste de la présidentielle.
Oui, Marine, on ne sera jamais copine parce que je suis une métisse et que je traîne avec Ali.
Voilà pour ces précisions d'Alexis Demeyer, dans un genre très différent de Diams. Parmi ceux qui aujourd'hui appellent à voter Macron dans cet entre-deux-tours, il y a l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. « Nous ne pouvons pas nous permettre de nous absenter », écrit-il sur Twitter. « L'intolérance, le repli sur soi, ce n'est pas le visage de la France. Macron donc, mais ce n'est pas un chèque en blanc », précise Villepin. Il l'accuse de s'être enfermé dans un dangereux tête-à-tête avec une droite de plus en plus extrême. Il ne vous a pas échappé que la question du coût de la vie quotidienne est un des sujets phares de cette campagne. Derrière les chiffres de l'inflation, il y a la hausse du coût de l'énergie, d'une partie de l'alimentation, les produits frais en particulier. Autre poste budgétaire qui touche à la vie quotidienne, la facture de téléphone mobile, elle grimpe elle aussi, Agnès Soubiran.
Après des années de prix bradés sur fond de concurrence féroce, les tarifs des opérateurs de téléphonie en France, parmi les plus bas d'Europe, sont donc en train de remonter, avec une augmentation de 3,2% l'an dernier, selon le régulateur des télécoms, l'ARCEP, avec une facture moyenne de 16 € par mois. Une augmentation que Sébastien Crozier, président CFE-CGC chez Orange, attribue d'abord à des avancées technologiques.
À la fois le passage de la technologie cuivre, de la DSL, vers la fibre, et puis de l'autre côté, de la 4G et de la 5G.
Mais ce qui soucie le plus les consommateurs, c'est l'augmentation des forfaits, sous couvert d'augmentation de prestations, comme la capacité de stockage dans le cloud ou de gigaoctets supplémentaires.
Les opérateurs ont coutume de proposer des augmentations de services en contrepartie d'augmentation tarifaire. Et le consommateur doit se désinscrire ou dire non, ce qui est parfois vécu comme un peu des hausses forcées.
C'est en effet au client de refuser, sous peine de voir le nouveau tarif s'appliquer dès le mois suivant, une pratique légale mais qui sème le trouble chez les consommateurs qui doivent avant tout veiller à souscrire un forfait en adéquation avec leurs besoins.
Eux aussi ont du mal à boucler le budget. Les candidats et partis arrivés sous les 5% des suffrages exprimés au premier tour et donc pas de remboursement de frais de campagne. Yannick Jadot, comme Valérie Pécresse, avait lancé un appel aux dons très rapidement après ce premier tour. Les écologistes annonçait avoir récolté 1 200 000 euros vendredi dernier. Côté Pécresse, le chiffre est tombé ce matin, 1 400 000 euros déjà récoltés.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
Alors que tous les regards étaient tournés vers l'est de l'Ukraine, c'est dans l'ouest que l'armée russe a frappé ces dernières heures. 4 à 5 frappes de missiles sur Lviv, selon le conseiller du président Zelensky. Et dans cette ville, près de la frontière polonaise, beaucoup plus rarement visée que d'autres et où sont arrivés ces dernières semaines beaucoup de réfugiés, le bilan, Jean-Sébastien Soldaini, est d'au moins 7 morts et 11 blessés.
Mais ce sont des missiles de croisière aperçus traversant le ciel qui se sont abattus sur des sites militaires et un garage de pneumatiques. Dans la vieille ville, tout près d'immeubles d'habitation, tout près aussi d'une voie de chemin de fer, mais il semble que la circulation ne soit pas affectée. C'est important, car cette ville est considérée comme un refuge pour des milliers de déplacés ukrainiens. Ceux qui ont fui les zones touchées par les violents combats s'y sont repliés, car Lviv, c'est un entre-deux, loin du front, à seulement quelques dizaines de kilomètres de la Pologne. Elle leur permet de rester en Ukraine tout en se donnant la possibilité de quitter le pays si la situation vient à changer brutalement. La ville a déjà été ciblée depuis le début du conflit. Tous les 10 jours environ, une frappe vient rappeler à la population de façon très concrète que le pays est en guerre, comme si les soldats de Vladimir Poutine tenaient à envoyer ce message aux populations locales. Ce n'est pas parce que les troupes russes disent se concentrer sur l'est du pays que le reste de l'Ukraine doit se sentir hors de danger.
Et c'est à Lviv, en principe, donc moins dangereuse que Kiev, que l'ambassade de France était installée depuis la fin février. Elle est de retour à Kiev depuis vendredi. L'ambassadeur français Étienne de Poncin a de nouveau fixé la plaque sur le bâtiment. La bataille de l'information et des images. La télévision publique russe a présenté ce matin les images de deux hommes décrits comme britanniques et faits prisonniers alors qu'ils combattaient en Ukraine. On ne sait pas s'ils sont libres de leurs paroles. Ils demandent à être échangés contre le proche de Vladimir Poutine, Viktor Medvedchuk, arrêté lui par les Ukrainiens. Coïncidence ou pas, l'Ukraine a diffusé ce matin une vidéo de Medvedchouk demandant lui à être échangé contre des défenseurs de Mariupol. On ne sait pas non plus s'il est libre de ses paroles. En Russie, la liberté d'expression s'est encore amenuisée depuis le début de la guerre. Symbole de cela, la suspension de l'activité du journal Novaya Gazeta. Trop dangereux d'exercer son métier de journaliste. Une partie de l'équipe a fui la Russie et veut créer un nouveau journal indépendant, Novaya Gazeta Europe, qui a déjà commencé à publier sur les réseaux sociaux, notamment Julie Pietri.
Novaya Gazeta en Russie, c'était, expliquent ses dirigeants, plus de 3 millions de vues sur le net chaque jour. Novaya Gazeta Europe, basée à Riga, en Lettonie, c'est 100 000 lecteurs via l'application de messagerie Telegram, une présence sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et à sa tête, le journaliste russe Kirill Martinov.
On a besoin de recommencer à travailler le plus vite possible pour donner une information juste. Parce que dans les circonstances graves actuelles, les Russes ont besoin de cette information. On doit leur donner. Évidemment, il n'est pas possible de travailler comme journaliste indépendant en Russie. Notre journalisme se situe donc quelque part entre une opération sous couverture et de l'autre côté, on ressemble à une start-up digitale capable de lutter contre la censure sur Internet.
Dans les équipe aujourd'hui, une trentaine de journalistes en exil. Pour reconstruire une rédaction, avoir les moyens d'enquêter, ils sont soutenus par un fonds, le fonds JX, lancé entre autres par Reporters sans frontières, dont Pauline Hadès-Mével est la porte-parole.
Les fonds collectés vont servir à ces journalistes pour travailler, acheter du matériel, se poser, commencer à enquêter, comme ils le feraient dans n'importe quelle rédaction.
Pour soutenir Novaya Gazeta et deux autres médias russes indépendants, 1,5 million d'euros ont déjà été récoltés.
D'autres nouvelles de la guerre, la Russie affirme avoir lancé des frappes contre des centaines de cibles en Ukraine depuis la nuit dernière. Même si Lviv a été touché ce matin, on en parlait avec Jean-Sébastien Soldaini, c'est dans l'Est que l'offensive militaire la plus massive est redoutée. Ils veulent achever et détruire le Donbass, affirme le président ukrainien Zelensky. Il estime que l'embargo européen sur les livraisons de pétrole russe s'impose chaque jour davantage. À en croire les Ukrainiens, la ville de Mariupol au sud n'est pas encore complètement aux mains des Russes. La ville n'est pas tombée, nos militaires y sont toujours, affirme le Premier ministre ukrainien. Selon le Programme alimentaire mondial, 100 000 personnes risquent de souffrir de la famine dans les jours à venir à Mariupol. Autre chiffre, au moins 200 000 emplois menacés à Moscou par les sanctions économiques, chiffre donné par le maire de la capitale russe. C'est une première alerte que lance l'OMS. Pas de raison de s'affoler, mais les spécialistes de santé sont vigilants. Le Royaume-Uni a signalé depuis le début du mois plus de 80 cas d'une nouvelle forme d'hépatite, maladie du foie donc, qui touche des enfants. Et Victor Dolande, dans certains cas, il a fallu une transplantation du foie.
Oui, 6 enfants ont dû subir une transplantation. Cette hépatite touche des enfants de moins de 10 ans. La plupart des cas ont été recensés au Royaume-Uni, mais 3 autres cas ont été documentés en Espagne. Et pour le moment, il n'y a aucune explication avérée, comme le précise Jean-David Zetoun, hépato-gastro-entérologue et docteur en épidémiologie.
Pour l'instant, les médecins n'ont pas pu identifier les causes habituelles d'hépatite. On suspecte que ce soit d'origine virale, parce que les virus sont des causes fréquentes d'hépatite. Mais pour l'instant, les virus habituellement incriminables, ça peut être l'hépatite A par exemple, ou l'hépatite E, n'ont pas été trouvés alors qu'ils ont été cherchés.
À l'heure actuelle, il n'y a donc que des hypothèses, soit un type de virus, potentiellement un adénovirus, il peut aussi y avoir un lien avec le Covid, puisqu'il a été relevé chez certains enfants malades, mais aucune certitude pour le moment. Ce qu'il faut préciser, et c'est important, c'est que ce genre d'alerte n'est pas inédit, comme l'explique Yazdan Yazdanpana, directeur de l'Agence nationale de recherche sur les hépatites virales.
C'est notre quotidien, ça veut dire des épidémies comme ça. Il y en a beaucoup, malheureusement. Et maintenant, tout ne va pas donner une ampleur comme on l'a vu avec SARS-CoV-2, mais il faut à chaque fois prendre les choses extrêmement au sérieux, investiguer, identifier et informer.
Pour le moment, aucun cas n'a été recensé en France, mais avec cette alerte de l'OMS, dès qu'un enfant présentera ses symptômes, jaunisse, diarrhée, vomissement et douleur abdominale, il sera suivi de très près pour voir s'il y a un lien ou non avec cette épidémie.
En Chine, la politique zéro Covid atteint localement des niveaux délirants sous l'effet du zèle de certaines autorités locales. Le correspondant de France Inter, Sébastien Berriot, racontait ce matin le cas de cette ville du centre du pays, Qingchong, 28 000 habitants, confinés parce que deux personnes positives ont été repérées dans une voiture de passage à un péage près de la ville. À Shanghai, 25 millions d'habitants dans l'ensemble, confinement total depuis le début du mois. Malgré cela, la mairie a annoncé aujourd'hui la mort de trois personnes qui ont environ 90 ans. L'actualité à l'étranger encore et en bref, l'organisation État islamique promet de venger la mort de son chef en février dernier en Syrie. Daesh appelle ses partisans à profiter de la guerre en Ukraine pour reprendre les attaques en Europe. En Israël, le gouvernement Naftali Bennett ne tient plus qu'à un fil. Il est un peu plus en minorité après le retrait du parti arabe israélien Ram. C'est la conséquence des affrontements entre manifestants palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées. À nouveau des affrontements hier dimanche. La saison d'hiver dans les stations de ski françaises a été exceptionnelle. Selon l'organisme ADN Tourisme qui regroupe les acteurs du secteur, les chiffres des années avant Covid ont été dépassés. Bravo donc pour la saison d'hiver. Inquiétude pour celle d'été sur un point au moins. Hôtellerie, restauration, malgré la hausse de salaire de 16% en moyenne annoncée après les négociations actuelles, la main-d'œuvre manque toujours. Écoutez le vice-président du syndicat du secteur LUMI, Jean Terlon.
On est à peu près entre 200 et 300 000 offres d'emploi non pourvues. Partout, les saisonniers courent après du personnel pour préparer la saison. J'ai un chiffre en Vendée où il manque, rien qu'en Vendée, 1200 cuisiniers, 2300 serveurs. Donc ça, pour un seul département, vous avez des villes comme Épernay qui, où il y a un étoilé qui a pas pu rouvrir parce qu'il manque du personnel, carrément pas rouvrir. Donc on a effectivement d'un côté sur de la demande, un retour de la clientèle bien évidemment après tout ce qu'on a vécu, mais on a des gens qui ont décidé d'avoir un choix de vie différent et de ne plus faire ce métier-là de la manière dont on l'a tous fait depuis des années.
Le vice-président de l'UMI, Jean Terlon, est donc 2 à 300 000 offres d'emploi non pourvues, en particulier dans la restauration. Il était ce matin l'invité de France Info. Comment se présente la saison d'été? En tout cas, il y a beaucoup de touristes à Paris en ce week-end de Pâques. Premier constat, beaucoup viennent du sud de l'Europe. Reportage Emma Steven dans le quartier du Trocadéro.
Les fontaines au premier plan, la tour Eiffel au second, la photo est parfaite pour cette famille espagnole.
Ça fait des années que j'espère venir à Paris, mais la pandémie est arrivée et nous avons dû annuler le voyage. C'est une ville qui est connue pour sa beauté et on a de la chance. En plus, il y a du soleil.
C'est son premier voyage à Paris, alors Hugo, 6 ans, s'émerveille autant que sa mère.
Je trouve la tour Eiffel magnifique. En plus, il y a des grands espaces verts et on peut être à l'air libre.
Profiter de l'air frais, démasquer, un vrai bonheur pour Valentina et son mari qui viennent d'arriver d'Italie.
Nous avions l'habitude de voyager, mais nous avons dû attendre.
Nous avons l'impression que tout est terminé et que l'on peut revenir à une vie normale.
Le retour à la vie normale, il profite aux compagnies de bus touristiques. Guillaume de Gigano en vend les billets.
Avec l'arrivée des vacances de Pâques, du beau temps, sur qu'il y a une montée du tourisme, on a environ 50 touristes par jour qui sont intéressés par tout ce qui est tour de bus, tour de bateau, etc. Donc c'est sûr que ouais, il y a une grande différence comparée à la sortie de l'hiver où on était à peu près à 10 personnes, donc c'était vraiment très réduit.
La saison commence bien pour le secteur du tourisme. Selon les professionnels d'Île-de-France, la fréquentation de la capitale retrouve son niveau de 2019 grâce à ce week-end de Pâques.
Tourisme qui repose aussi sur la gastronomie française. Comment notre rapport à l'alimentation a évolué depuis la Seconde Guerre mondiale? Dis-moi ce que tu manges, une histoire de la France à table. C'est avec notre invité Jean-Louis André dans quelques minutes. N'hésitez pas à intervenir et poser vos questions. Qu'est-ce qui a changé pour vous à table lors des courses dans le rapport à l'alimentation ces dernières années, voire décennies? Appelez-nous 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. Encore un mot avant la météo pour vous dire que l'actrice Catherine Spack s'est éteinte hier. Elle avait joué dans Le Fanfaron de Dino Risi ou encore dans Weekend à Zuidcot d'Henri Verneuil. 13h28.
Hey, Oli est de retour.
O-L-I.
Des nouvelles histoires sont à écouter sur franceinter.fr et l'application Radio France.
Je suis Hugo Lindenberg et je vais vous raconter l'histoire de la Compagnie des rêves.
Des histoires originales pour enfants, écrites et racontées par
Barbara Carlotti, Nadja,
Dorothée Barba,
c'est Arthur Dreyfus.
Oli, une centaine de podcasts à écouter, à télécharger,
une autre,
et à réécouter sur franceinter.fr.
Et retrouvez aussi les histoires Oli en album illustré, disponible en librairie.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, les experts Euromaster veillent chaque jour sur la sécurité des conducteurs.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
C'est ensoleillé à l'est, c'est plus nuageux à l'ouest.
Oui, une large moitié est même, puisque le soleil règne entre les Hauts-de-France, le bassin parisien, le centre-val de Loire, le Grand Est, le Jura et les régions méditerranéennes. Ce temps ensoleillé est quand même un peu atténué par un voile de nuages élevé, parfois épais, entre le nord de la Seine, la Touraine et le nord du Limousin. Plus à l'ouest, ce sont les nuages qui sont prédominants cet après-midi, ce qui nous annonce d'ailleurs un changement de temps dans les prochains jours. Entre les côtes de la Manche, la Normandie et les pays de la Loire, c'est à cause d'une perturbation que le ciel est nuageux. Le temps reste sec, mais une petite averse est quand même possible sur le Finistère. Dans le sud-ouest, les nuages bas compactent depuis ce matin tardent à se morceler. Des éclaircies vont réussir à se développer d'ici la fin d'après-midi. Elles seront d'ailleurs plus nettes entre le Limousin et le Midi Toulousain. Et puis en revanche, sur les Pyrénées, le ciel restera gris. Quelques averses pourront déborder d'Espagne. D'ailleurs, dès demain, cette instabilité qui remonte d'Espagne va s'accentuer au sud de la Garonne avec des averses régulières. Les températures, elles sont partout, au-dessus des valeurs de saison. Parfois légèrement, comme à Boulogne-sur-Mer ou au Havre avec 13 degrés. Mais en règle générale, les maximales dépassent de 2 à 5 degrés les valeurs d'une mi-avril. Prévoyez 16 degrés à Biarritz et à Quimper, 18 degrés à Metz, Nantes, La Rochelle et à Bastia, 19 degrés pour Lille, Dijon, Bordeaux et Toulon. On ira jusqu'à 20 degrés à Paris, à Lyon, à Strasbourg et à Toulouse et même 23 degrés pardon, du côté de Perpignan.
Sébastien Léas, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Dans la campagne présidentielle longtemps sans relief, un des 12 candidats du premier tour s'est taillé un succès en faisant de la consommation de viande et de vin un étendard. C'est le candidat communiste Fabien Roussel. Il est passé pour un ringard auprès d'une partie de l'opinion. Il en a conforté, voire rassuré, une autre partie. Dans un pays que l'on présente de plus en plus comme un archipel dont les différentes communautés ont du mal à entrer en contact, la nourriture est un excellent fil rouge pour dire d'où nous venons et ce que nous sommes devenus. Dans « Dis-moi ce que tu manges, une histoire de la France à table », le documentariste et journaliste Jean-Louis André, reporter notamment pour le magazine Saveur, retrace notre histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Il brosse un tableau éminemment politique de notre rapport à la bouffe à 6 jours du second tour. Qu'est-ce que l'évolution de ce rapport, de viande presque tous les repas, au succès du vegan, des premiers hypermarchés, au phénomène locavore? Qu'est-ce que cela raconte de notre pays? Vos questions, je les attends au 01 45 24 7000 et via l'appli France Inter. Bonjour Jean-Louis André.
Bonjour.
D'où venons-nous? Bah, c'est le point de départ de votre livre et c'est important de le rappeler. Sorti de la Seconde Guerre mondiale, il y a des tickets de rationnement sur le sucre, le café et le pain qui ne disparaissent qu'en 1949. On vient d'un monde qui a manqué de nourriture pendant la guerre.
On vient d'un monde qui a manqué, effectivement, et du coup, l'abondance, voilà. Bien manger, c'est beaucoup manger. Et l'abondance, c'est ce qui fait notre retour aux fameux jours heureux qu'on a évoqués il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, à un moment, bien manger, la quantité prime sur la, j'allais dire pratiquement sur la qualité, mais la qualité en réalité ne se pose pas vraiment parce que la nourriture elle est là, elle est dans un rapport immédiat, c'est les marchés, c'est on n'est pas dans de l'agroalimentaire joue très peu son rôle d'intermédiaire, donc on est dans un rapport assez simple et assez facile à la bouffe. Et là, on choisit, on goûte.
Ouais. Et la viande, hein, le 1951-52, il y a plein de détails dans votre livre. Il existe un défilé du bœuf gras à Paris. La consommation de viande, elle passe de 42 kilos par an par personne en 1925 à 80 kilos en 74. Au fond, les 30 glorieuses, on pourrait les rebaptiser les 30 viandardes.
Oui, effectivement, c'est ça. C'est d'ailleurs, il y a une très belle mythologie de Roland Barthes, ouais, hein, sur le steak frites, qui dit le steak frites, c'est une mythologie, c'est-à-dire une icône de l'identité française. C'est l'idée du sang, de la chair. Moi, je m'en souviens, hein, quand j'étais petit, on me faisait manger un steak tous les jours, en me disant, bah, au moins, ça te fait des forces, quoi. Enfin, ouais. Et ça, on l'a tous dans notre mémoire. C'est en ça que c'est intéressant, c'est que c'est très difficile de passer à notre régime parce que on a ça dans nos mémoires. Plus tu manges de la viande, plus tu vas être fort, mon grand.
Et la campagne publique suivait le bœuf et le vin à table aussi. Et le rôle des pouvoirs publics, on se souvient de la campagne de Mendès France avec le lait, c'est de nourrir et de nourrir beaucoup.
Et c'est de nourrir beaucoup. Et ouais, effectivement, et le rôle des pouvoirs publics, ce sont d'abord des pouvoirs publics nourriciers. On voit avec le vin, on le voit avec la viande, on le voit avec le blé aussi. Dès que le blé manque, c'est à l'État qu'on s'en prend.
Et la bouffe est au milieu de la ville, si j'ose dire, le cours Julien à Marseille, les abattoirs de la Villette et le marché des Halles à Paris. Alors on va voir ce qui va changer dans les années suivantes, mais je voudrais prendre un premier appel. Bonjour Sarah.
Bonjour.
C'est une Anglaise qui nous appelle pour parler de notre rapport à la nourriture. Soyez la bienvenue Sarah.
Merci. Voilà, en effet, je vais essayer d'être rapide, même si j'aurais eu beaucoup de choses à dire en fait. Moi, ça fait plus de 30 ans que j'habite en France maintenant. Ouais. Dans une région où on mange bien, en Auvergne, à Aurillac. Et ce que j'ai remarqué en 30 ans, c'est la place du repas dans la vie des Français qui, malgré tout, devient de moins en moins important, ouais. À savoir les pauses midi qui sont réduites, ce qui fait que cette formule entrée, plat, dessert, qui maintenait un équilibre alimentaire, je trouve, moi, se perd et ne permet pas, notamment aux jeunes générations, de prendre plaisir à manger. C'est vite fait. La vinaigrette n'est plus faite maison. Elle est dans des bidons que l'on sert à la cantine quand on ne peut pas rentrer chez soi. Oui. Et c'était surtout ça que je voulais signaler. Ah ben
c'est bien noté et ça recoupe ce que nous dit Karine sur l'appli. La différence dans les repas, plus d'entrée, sauf quand j'invite mes parents ou mes beaux-parents, et un apéro plus copieux. Est-ce que vous validez ça, Jean-Louis André?
Oui, mais moins qu'ailleurs, moins que dans d'autres pays, ouais. Quand même. On reste quand même en tête pour la convivialité associée au plaisir de manger. Mais oui, c'est vrai que ça correspond à des modes de vie différents. On a moins de temps, on y consacre moins de temps. Mais en même temps, nous gardons une culture qui est une culture dans laquelle on aime en parler. Et ça, c'est très important. Au-delà du bien manger, on aime parler de bien manger. C'est ce qui fait peut-être notre vraie différence vis-à-vis d'autres pays.
Alors, les années, les 30 glorieuses, c'est aussi l'arrivée des congélateurs, des réfrigérateurs, c'est l'arrivée du téflon à la place de la fonte. Rendez-vous compte, madame, on peut préparer un bœuf bourguignon en moins de 2 heures. Le féminisme a évolué depuis. Et puis, je voulais insister sur un point, parce qu'il me semble que c'est très politique. Les hypermarchés, le premier hyper, c'est à Sainte-Geneviève-des-Bois en 63. Il y a eu les Leclerc avant. Et le paysage se transforme parallèlement au fond. Il faut les remplir, ces hyper, et vous dites que la Bretagne devient la plus grande charcuterie de France, en quelque sorte.
C'est vrai, c'est là qu'on produit effectivement l'ensemble de la plus grande partie de, on peut toujours dire l'Auvergne, la charcuterie d'Auvergne, mais ce que mangent concrètement les Français à l'époque des Trente Glorieuses, c'est le cochon qui va venir de Bretagne. Oui. Et effectivement, je pense que ça va ensemble au fond, l'urbanisme, c'est-à-dire la montée des grands ensembles et la transformation du commerce qui passe en hypermarché et finalement la transformation du monde agricole. L'un ne va pas sans l'autre. Oui. C'est parce que les gens se déplacent qu'il faut des lieux pour les nourrir, c'est parce que ces lieux sont de plus en plus importants qu'il faut créer ce qu'on appellera plus tard des filières, c'est-à-dire non plus des petits producteurs associés, mais des filières qui remontent le processus depuis la bête jusqu'à la poêle.
Et voilà, c'est ça. Et du coup, l'agroalimentaire, vous disiez en 45, la question se pose pas. Là, l'agroalimentaire arrive avec les marques et on parlait du repas qui se réduit un petit peu en durée. Vous rappelez le slogan Orangina en 1972, secouez-moi, secouez-moi, tout s'accélère, au fond, comme si c'était un art de vivre, secouez-moi, secouez-moi.
Oui, et en même temps, cet agroalimentaire, il faut bien voir une chose, c'est qu'il est dans les années 70, jusque dans les années 80, l'agroalimentaire est perçu comme un progrès. Oui. Hein, un peu comme, là encore, si on refait le parallèle avec les grands ensembles, c'est un progrès par rapport à un habitat, de centre-ville plutôt vétuste. Là, l'agroalimentaire, ça permet d'être sûr, d'avoir des dates, les premières DLC vont apparaître, oui. Ça permet de savoir
de
à peu près par... Ouais, la limite de consommation, de savoir d'où vient le produit. Par exemple, on n'aurait jamais mangé avant les années 50. C'est pas un hasard si on invente le magret de canard saignant, si on l'invente dans les années 50, avec André Daguin qui invente ça. C'est parce qu'avant, on peut pas manger le canard parce qu'il est élevé dans la basse-cour, comme ça, et qu'on n'est pas très sûr de son élevage. Mmh. On peut aujourd'hui imaginer manger un tartare de cochon. C'était impossible il y a 30 ans parce qu'on se disait, mais on va attraper le ver solitaire et les pires fièvres du monde.
Et alors, il y a une part de mythes et d'histoires qu'on réécrit, parce que vous citez notamment l'ouvrage de Bourdieu, La Distinction, qui paraît en 79 sur le thème « Toute la France mange à sa faim ». Ben non, toute la France ne mange pas à sa faim. Il y a cette phrase que je trouve géniale. « Pourquoi le poisson est l'apanage des classes aisées ? C'est une question de mastication. Le poisson se mange doucement en triant les arêtes avec les dents de devant. » Voilà, la nourriture est aussi affaire de classe sociale.
à faire de distinction et de positionnement voilà. sur une classe sociale. C'est-à-dire que et Bourdieu va plus loin. Il dit même les poissonniers, même les pêcheurs, par exemple, lorsqu'ils se retrouvent un jour de fête, ne veulent pas manger de la viande, ne veulent pas manger du poisson, pas parce que ils en sont lassés. Non, parce que faire la fête, c'est manger avec les dents derrière, c'est manger comme un homme. Ouais. Y aller, quoi. Mordre à belles dents et non pas chipoter.
Alors, il y a un point de bascule, et puis on va entendre un nouvel auditeur. Deux dates. 1974, René Dumont entre en campagne, premier candidat écologiste, en buvant un simple verre d'eau. Et à peu près à la même époque, 75, un décret du ministère de l'Agriculture établit la liste des additifs autorisés. Et moi, je vois dans la coïncidence de ces deux dates un basculement des questions qui arrivent sur notre façon de nous nourrir et de cultiver notre nourriture.
Absolument, c'est le doute qui s'insinue en avant et qui ne va plus cesser de croître jusqu'à devenir plus qu'un doute, une peur, les grandes peurs alimentaires. Le doute s'insinue dans ces années-là avec cette liste, la fameuse liste des E, des additifs E qui font peur à tout le monde. René Dumont effectivement. Et puis je pense aussi quand même la mort de Pompidou, qui était un bon vivant et qui tout d'un coup en pleine gloire, j'allais dire, est emporté par une maladie dont on connaît mal les ressorts, qui est le cancer, et on se dit oula. Ça, c'est la science. Ça, c'est tout ce qu'ils nous font qui est pas bien. C'est un peu comme envoyer les gens dans la Lune, quoi. C'est un truc, et ça, peut-être que c'est pas si sain que ça. C'est le premier doute sur la science de l'après-guerre.
Et aujourd'hui, les scandales alimentaires, Raphaël nous appelle de La Réunion. Bonjour, Raphaël. Ah, Raphaël n'est pas disponible. Les scandales alimentaires aujourd'hui, Jean-Louis André, quel regard portez-vous sur ces scandales alimentaires?
Bah, à la fois, il révèle effectivement un malaise autour de notre assiette, mais en même temps, il révèle aussi, il faut bien le dire aussi, un progrès par rapport à notre assiette. S'il y a scandale, c'est qu'on a levé les affaires, c'est qu'on en fait une publicité, c'est qu'on les rend publics. Donc, en même temps, il y a eu un progrès sur le contrôle de ce qu'on mange. Je pense qu'au fond, on mange plutôt mieux aujourd'hui que ce qu'on mangeait il y a 30 ans. Ça me paraît... 30 ans, moi, je descendais de mon lycée et sur la Canebière à Marseille, et il y avait un pauvre vendeur de hamburgers gras, pas bon aujourd'hui, notamment pour le fast-food, le fameux fast-food tant décrié. Il y a eu un progrès énorme. Il y a plein d'offres de fast-food qui peuvent être très saines, de qualité, etc.
On a retrouvé Raphaël qui nous appelle de La Réunion. Bonjour Raphaël.
Oui, bonjour France Inter, bonjour monsieur. Donc, oui, bonjour. Moi je voulais intervenir... pour vous dire que nous, à La Réunion, c'est tout à fait l'inverse de la métropole. C'est que pendant des années, nous mangeons, on va dire, du 100% presque bio. Et à partir des années 80 et le développement des hypermarchés, on a commencé à faire venir pas mal de produits d'extérieur à bas coût, ce qui fait que avec la stagnation, diminution des salaires, les gens sont partis dessus. Et puis, surtout à cause des nouvelles constructions, parce que là, on a développé ce qu'on appelle des logements en hauteur, et ce qui fait que les gens partaient plus dans les grandes surfaces. Oui. Et on s'est rendu compte à un moment donné que ça avait un impact sur la santé, surtout sur le diabète de type 2. Mais heureusement pour nous, quelque part, le coronavirus est passé par là, parce qu'avec la fermeture de tous les magasins et tout, les Réunionnais se sont rendus compte que le circuit court était quelque chose de très intéressant, d'abord parce que c'était moins cher pour le porte-monnaie de certaines fois, premièrement, et deuxièmement, meilleur pour la santé. Donc, voilà, oui. Meilleur pour la santé. Donc, du coup, ces derniers temps, on assiste à un revirement de situation où les gens préfèrent se référer au circuit court, à l'agriculture biologique, à l'agriculture raisonnée, de repartir vers les
au supermarché. Merci Raphaël pour ce témoignage. Alors il y a plein de choses, la nourriture santé aujourd'hui, Jean-Louis André.
Oui, la nourriture santé, c'est-à-dire que dis-moi ce que tu manges, je dirais ce que tu es. C'est vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on a la sensation aujourd'hui que ce qu'on mange nous constitue, c'est notre chair. Donc on est extrêmement
attentif.
Dépité, oui, attentif et débité si on se sent trahi. Donc donc effectivement, c'est une grosse tendance.
Et cette notion d'archipel que j'évoquais dans l'introduction et que vous évoquez vous aussi dans le livre, au fond, on se définit de plus en plus par la façon dont on mange, et il y a de moins en moins de ponts entre les différentes communautés, si j'ose dire.
Exactement. Alors, dans les années 50, c'est la nourriture a été prise comme une manière de le repas français, c'était une manière de se retrouver. C'était un des éléments de la France unie, gaulienne, du mythe résistentialiste, etc. On avait tous fait la guerre ensemble et on l'avait gagnée ensemble et on allait tous se retrouver, reconstruire un grand pays ensemble. C'était déjà un peu un mythe, il faut bien avouer. Mmh. Comme cette table était déjà unie et cette grande table familiale était déjà un peu un mythe. Mais aujourd'hui, effectivement, la nourriture est investie de nos grandes peurs, de nos interrogations, de nos doutes, et du coup aussi de nos idéologies politiques. Mmh. Et nous avons, d'un côté, ceux qui vont manger vegan, ceux qui vont manger cru, ceux qui vont manger halal, ceux qui vont manger, etc. Donc, toute la question, c'est est-ce que malgré tout, on peut se réunir autour d'une table ? Mais c'est au fond toute la question qui est posée à la société française. Est-ce que dans cette diversité, elle peut se reconstruire et s'inventer une nouvelle identité ou pas ? Enfin, c'est toute la question qui aujourd'hui fait débat.
Et vous écrivez que nous sommes seuls devant nos assiettes, ce que je trouve terrible.
Oui, nous sommes de plus en plus seuls. Mais quand même, pour donner un élément d'espoir.
Allons-y.
Allons-y. Quand on est dans les... Moi, j'aime bien les food courts, vous savez, en Asie, qui sont des espèces de lieux, de cours comme ça, autour duquel il y a différents stands de cuisine de rue. Il y a celui qui fait du riz, celui qui fait des sushis, etc. Et on a ça en Singapour, on a ça en Afrique du Sud, on a ça dans tous les pays un peu modernes, comme ça, émergents. Et ça n'empêche pas qu'au milieu, il y a une grande table et que tout le monde va se servir, prend son assiette, celui qui aime plutôt ça, plutôt ça, plutôt ça. Puis quand même, au bout du compte, on finit par s'asseoir à une table commune et on partage un repas. Donc peut-être qu'on va en arriver là aussi, c'est pas grave. Peut-être qu'on va tous se retrouver.
Et peut-être que du coup, on peut se retrouver aussi autour des différentes nourritures du monde qu'on trouve désormais à chaque coin de rue.
Et ça, c'est merveilleux. Et c'est différent. Vous voyez, la mode des nourritures du monde, c'était les années 80. Il y avait des restaurants, le Spoon de Ducasse, qui collectionnait les saveurs des différents pays du monde. Aujourd'hui, c'est plus exactement ça. On ne cherche pas à aller chercher à faire tellement un repas totalement thaï ou un totalement chinois, etc. On va papillonner, on va aller zapper, on va aller prendre une saveur ici, un piment ici, un produit ici. Et tout ça, ça fait une cuisine personnelle et non pas une cuisine de terroir fût-il lointain ou de l'étranger. Et ça, c'est assez joli, je trouve, cette manière qu'on a de réinventer aujourd'hui une cuisine à nous.
À la carte, au fond. Merci beaucoup, Jean-Louis André. Dis-moi ce que tu manges. Une histoire de la France à table, c'est publié chez Odile Jacob. 13h46.
France Inter. Le 13-14.
Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Le vif de l'histoire dans 10 minutes. Les catholiques pratiquants votent de plus en plus à l'extrême droite.
Et ils ont du mal à partager le pain et le vin parce qu'ils sont divisés en chapelles.
Entre deux tours, c'est aussi notre feuilleton et nous serons avec le maire de Châteaudun, une ville qui vote quasiment comme le reste de la France. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Demain, ce sera l'ouverture du Printemps de Bourges. Il durera jusqu'à dimanche avec plusieurs dizaines de concerts au programme, dont celui de Florent Marchais, qui est à votre micro, le temps d'une chanson.
Et c'est de Stéphane Echer qu'il a choisi de me parler. Florent Marchais, il aime son élégance, il est fou de sa voix et il est fasciné par sa modernité.
Ils sont rares, ces artistes, capables d'être constamment dans leur époque, en maîtrisant la folk, l'électro, le rock, la pop, la musique minimaliste. Et j'aime bien ces artistes complètement entiers. Il en a parlé récemment, mais qui est capable de vendre sa maison pour produire son spectacle. Il y en a plus beaucoup, et il n'est pas du tout dans un truc de rapport de business. Pour moi, c'est un modèle. J'ai eu beaucoup de grands frères en musique, comme Dominica, Miossec, et puis ceux qui n'étaient pas complètement des grands frères, comme on pourrait appeler ça, des oncles. Les oncles que j'aimais quand j'étais môme, je les réécoute peu, ou je suis peut-être moins curieux de ce qu'ils font aujourd'hui. Et lui, il n'arrête pas de me surprendre. À chaque fois qu'il sort un album, je dis « Ah ouais, ça, il n'avait pas encore exploré, il le fait superbement bien, quoi. » Puis sur scène, il est beau.
Il y a des grands cousins, parfois. Qu'on sait pas les
Oui, les grands cousins. Voilà, je cherchais. C'est très bien, les grands cousins. Voilà, mais c'est un grand cousin.
C'est pas moi qui sers autour de ton cou. C'est dans l'atmosphère. C'est bien fait pour nous. Si nous manquons d'air, si nous devenons fous, jetons-nous des pierres, éclaboussons-nous. C'est pas moi qui sers autour de ton cou. C'est comme une vipère qui sort de son trou. Trop de laisser faire, trop
Chanson s'appelle « Autour de ton cou », Frédéric.
Chanson extraite d'un EP de 4 titres, tout récent, coécrit avec son ami Philippe Djian, avec une pochette réalisée par l'artiste plasticienne Sophie Kahl. Le disque est sorti le mois dernier, mais Florent Marché a découvert « Autour de ton cou » il y a déjà un petit bout de temps.
J'ai pu la découvrir il y a 2-3 ans déjà, dans un contexte un peu particulier. J'étais en vacances dans les montagnes du Vaucluse, dans une maison isolée avec des amis. Et parmi ces amis, il y avait notamment Sophie Kahl, qui est très proche de Stéphane Escher. Et à un moment donné, elle s'est isolée comme ça dans sa chambre pour écouter un mail qu'elle venait de recevoir de Stéphane Escher. Donc. Et c'était cette chanson. Bon, elle pensait que j'écouterais pas parce que les murs sont très épais. En même temps, il n'y a pas d'isolation du tout. Donc j'ai écouté un peu de loin, mais j'ai écouté déjà la voix, la mélodie... Et j'ai tout de suite été complètement aimanté et j'ai eu envie d'en écouter plus, en tout cas plus précisément. J'ai insisté auprès de Sophie en disant « mais c'est une nouvelle chanson de Stéphane » et tout. Il me dit « oui, mais c'est encore en état de maquette ». Et on a eu Stéphane au téléphone après l'avoir écouté quand même une deuxième fois. Je lui dis « voilà, je peux plus vivre sans. Maintenant que je l'ai écouté, j'ai besoin de l'avoir avec moi. Promis, je ne la partagerai pas, elle restera bien au chaud dans mon ordinateur, mais il me la faut ». Et il est adorable, il a gentiment accepté. Et ça fait plus de 2 ans que je l'écoute presque une fois par semaine.
C'est pas moi qui sers autour de ton cou. C'est comme une vipère qui sort de son trou. C'est lui de ses galères, c'est tous ses écrous. C'est pas moi qui sers.
Vous dites que vous l'écoutez une fois par semaine environ. Vous allez y trouver quoi ?
J'en ai besoin, j'ai besoin de ma dose de mélancolie et de tristesse qui vient me rasséréner en fait. Moi j'ai pas besoin de mettre de la musique festive pour aller mieux en fait. Hein. Moi je mets des morceaux très mélancoliques, j'aime pleurer, voilà, être enveloppé comme ça de mélancolie. Il y a quelque chose de très organique en fait, et puis la voix, la mélodie, c'est presque bachien en fait dans les harmonies, il y a une grande simplicité, et puis ces textes, ces mots. C'est pas moi qui sers autour de ton cou. J'allais dire, ça vous prend à la gorge.
De ton cou.
Autour de ton cou, Stéphane Escher. C'était donc Frédéric, le choix de Florent Marché.
Qui sera en concert cette semaine au Printemps de Bourges, samedi 21h à la Maison de la Culture. Quant à son nouvel album, Garden Party, il sortira le 10 juin.
Le feuilleton, le 10 avril, Emmanuel Macron a recueilli 28% des suffrages exprimés, 23% pour Marine Le Pen, 22% pour Jean-Luc Mélenchon, abstention 26%. Il est une ville de France où les résultats étaient très proches de cette moyenne nationale. C'est Châteaudun, sous-préfecture de Eure-et-Loir, près d'Orléans. C'est là que le 13-14 se déplacera jeudi pour une nouvelle émission délocalisée. Et premier regard tout de suite dans notre feuilleton de l'entre-deux-tours. Bonjour Fabien Verdier.
Bonjour.
Maire sans étiquette de Châteaudun, 13 000 habitants dans votre ville. En quoi, de votre point de vue, monsieur le maire, c'est une France en miniature, Châteaudun ?
Parce que Châteaudun, c'est une histoire industrielle depuis 2 siècles. C'est une histoire agricole avec la Beauce, le Dunois et tous les agriculteurs, le blé, le grenier de la France. Et donc, ça synthétise, c'est un peu cette histoire de France. Et avec, comme vous le disiez, 13 000, un peu plus de 13 000 habitants sous préfecture, on vote à l'unisson de la France dans nos 11 bureaux de vote depuis de nombreuses années.
Donc, petite ville à la campagne, on va le dire comme ça. Quelles sont les préoccupations de vos habitants, puisque c'est une France en miniature? Comment sentez-vous les choses?
Le pouvoir d'achat, ouais. Évidemment. Le développement de nos territoires, des communes rurales autour. Moi, je le dis, il y a 233 sous-préfectures en France. Il faut que l'État, au niveau national, il y ait une politique de développement des territoires avec 2-3 axes structurants pour chacune d'elles. Notamment, c'est-à-dire mieux vivre, le tourisme, la santé, l'emploi, c'est ces sujets-là qui tiennent à cœur aux Dunoises et aux Dunois.
Est-ce qu'il est difficile de trouver un médecin, par exemple, à Châteaudun ?
Alors nous, on en a attiré beaucoup, on a l'hôpital, on a le centre de santé municipal, donc on a des médecins, il en manque encore un petit peu, mais ils sont attirés parce qu'on a des exonérations fiscales et qu'on a un cadre de vie où tu peux acheter une maison avec jardin à 150 000 euros, mais on peut en trouver, mais il en manque encore un petit peu en termes de dentiste et de dermato, par exemple.
L'abstention, 23% chez vous, alors un peu moins que la moyenne nationale, mais comment l'analysez-vous, l'abstention, chez vous ?
le rejet du politique, le rejet finalement des élites et de la démocratie, mais depuis de nombreuses années, les gens n'y croient plus. Ils nous disent, les politiques, les élus parlent, mais ils agissent pas assez. Ouais. Donc je pense qu'il faut aller vers l'efficacité de l'action publique, des résultats, c'est ce que les citoyennes et les citoyens attendent, viscéralement.
Cette distance-là, vous la voyez de votre poste de maire ?
Oui, on l'en sent même nous-mêmes, hein, des fois, ouais. Ils nous attaquent. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté des résultats. L'action publique, si on prend un seul exemple, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on aille plus vite. On dit qu'en Chine, on fait un hôpital en 4 semaines ou 6 semaines. Si en France, on pouvait améliorer une ligne de train en 6 mois, en 1 an, au lieu de faire ça en 20 ans.
Ouais.
Et sur beaucoup d'autres sujets, hein, c'est là qu'on gagnerait tous ensemble pour notre 5e République, et que les gens seraient plus satisfaits en disant le politique, les élus, les hauts fonctionnaires, quand nous, Demos, on veut quelque chose, on l'a plus rapidement et plus efficacement.
Eh bien, on examinera cela encore plus en détail jeudi en débarquant chez vous, si j'ose dire, monsieur le maire.
Oui,
à Châteaudun.
Avec plaisir.
Merci
avec
beaucoup plaisir. D'avoir pris quelques minutes.
Merci à vous.
13h54.
France Inter. Le 13-14.
Et c'est Yann Gallic qui sera en reportage pour ce feuilleton de l'entre-deux-tours jusqu'à vendredi. Le vif de l'histoire. Bonjour. Rebonjour. Jean Lebrun.
Bonjour.
En cette fin de week-end, Pascal, vous vous arrêtez sur le vote des catholiques pratiquants en particulier.
Alors, il faut s'entendre sur le mot catholique. Moi, les catholiques pratiquent, plus leur vote ressemble à celui des autres électeurs, mais on peut encore distinguer ceux et celles qui vont à la messe, les talas, disait-on naguère. Alors c'est un critère très discutable, hein, le bénévole du Secours catholique est par nature un pratiquant, même s'il ne se rend pas régulièrement à l'église B. Les habitudes demeurent, et puis c'est commode de sonder les pratiquants, il suffit maintenant d'un microscope. Tant ils sont devenus peu nombreux, 2, 4, 6% selon qu'on distingue au millimètre les pratiquants réguliers des occasionnels.
Et cette fois, le centre de gravité s'est déplacé brusquement vers l'extrême droite.
Oui, Fillon 2017, largement majoritaire, on vote traditionnellement chez les pratiquants pour la droite et les modérés. Et cette année, Marine Le Pen a été choisie par le quart des pratiquants contre 15% il y a 5 ans. Alors dans les zones rurales où les églises ont été fermées et la civilisation paroissiale mise en terre avant même le système des communes, les catholiques ont rejoint celles qui surfent sur le sentiment de déclassement. Mais Zemmour attire 10% des pratiquants en ville surtout, 18% des suffrages à Versailles, par exemple.
Et le vote pour Éric Zemmour a sa signification propre.
Bah oui, des bourgeois catholiques qui répugnaient à voter Le Pen comme leur femme de ménage n'hésitent pas à rejoindre Reconquête. Ils ont vécu tant de luttes perdues sur les questions de mœurs dans une société sécularisée. Nombre de membres du clergé avec qui ils avaient partagé ces combats sont tombés dans les scandales de pédophilie. Ils auraient pu faire silence, attendre de leur église à terre qu'elle tente une conversion, mais non, voilà qu'un chevalier, Zemmour, relève enfin leur étendard et leur propose une restauration de l'ordre ancien menée virilement dans l'église d'aujourd'hui qui est assez imperméable au féminisme, fleurissent les groupes et les stages qui veulent proclamer les vertus de la masculinité.
Et la formation politique d'Éric Zemmour s'appelle Reconquête, référence explicite aux croisades.
Oui, les catholiques qui l'ont choisi sont secrètement fascinés par les musulmans qui dans leur famille, leur pratique, conservent ce qu'ils ont perdu eux. L'évêque de Fréjus, c'est l'un de ceux qui siègent le plus à droite dans l'Église de France, a publié un livre sur l'islam, avec en couverture une femme plus que voilée, et un titre « L'islam, une menace, un défi ? Sommes-nous capables de faire aussi bien qu'eux ?» se demande-t-il. Et en même temps, comment se protéger d'eux ? Alors remarquez que dans les autres églises chrétiennes, les mêmes questions se posent. Plusieurs paroisses orthodoxes sont passées sous le contrôle du patriarcat de Moscou, dont on sait ce qu'ils pensent. Et chez les protestants, les évangéliques hésitent. La fraternité les invite à ouvrir leurs portes, mais la crainte et la prudence à fermer leur cœur.
Autrement dit, la ligne de front qu'on imagine séparer les religions les unes des autres partage en réalité chaque religion.
Alors un autre évêque, celui de Bayonne, qui entend sans doute ne pas être dépassé à droite par celui de Fréjus, a recommandé l'année dernière de cesser de lire le journal La Croix, qui n'aimerait pas les catholiques. Et si on regarde sur la toile les sites catholiques zémouristes, eh ben on lit leur approbation. Ce torchon, ce torche-balle, dit-on, devrait se nommer pour ce qu'il est, le croissant. L'épiscopat, dans son ensemble, a tenu compte de ce glissement de terrain. Il avance, vous savez, comme ce vieux personnage de BD, Prudence, petit pas. Il n'ose plus définir de ligne rouge, comme en 2002 et même en 2017. La situation n'est pas sans rappeler celle d'il y a un siècle, quand Maurras et l'Action française voulaient prendre le contrôle de l'Église de France. Maurras, vous savez, comme Zemmour, détestait le Christ, venu au centre du monde pour les pauvres, alors que l'Église, pour lui, comme pour Zemmour, doit se tenir aux frontières de la France pour y incarner l'ordre. Alors imaginez que restez pratiquant, hein. Vous soyez des 20% qui continuent de voter à gauche et que vous vous retrouviez à la messe aux côtés de jeunes gens aux tempes bien rases. C'est pas facile d'échanger avec eux le signe de paix que prévoit la liturgie. Enfin, cette année, vous pouvez invoquer les risques de la pandémie pour ne pas trop frayer avec eux. L'Église fonctionne, elle aussi, en silo et en chapelle, va-t-on dire.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire tous les jours, juste avant 14h dans ce 13-14. Après le flash, ce sera Mathieu Vidard, les mammifères des villes au menu de la Terre au carré, avec évidemment aussi Camille Cronier aux côtés de Mathieu Vidard.